hum da dum hum da da hum dum dum hum. Bonjour à tous. Si vous écoutez attentivement notre radio, et ses émissions particulièrement, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à la question suivante. Y a-t-il quelque chose de plus haut que nous appelons Dieu? Ce n'est pas une question simple, mais imaginez maintenant un système à plusieurs dieux, d'où mon titre de cette émission. Plusieurs dieux, vraiment? Déjà que croire en un, ce n'est pas si simple. Alors, pour en parler, aujourd'hui, j'ai ici Anurag Kewat, qui habite en Inde et qui professe la religion hindouiste. Alors, bonjour Anurag.
Bonjour.
Vous pouvez vous présenter déjà, quel âge, votre âge, votre profession?
Moi, je m'appelle Anurag Kewat, je travaille dans l'informatique, j'ai 36 ans. Et merci d'avoir m'invité pour ce podcast.
Alors, vous êtes quelqu'un de moderne, de jeune, occidentalisé. Oui. Vous êtes amoureux de la culture française, puisqu'on vous trouve en ce moment en France. Et vous êtes parfois un peu critique vis-à-vis des traditions de votre pays.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quoi vous êtes critique?
La première chose que je trouve un peu avec un conflit, on peut dire, c'est que leur religion hindouisme, ça, à la base, ça soutient à la paix intérieure, mais en réalité, ce qu'on voit, la violence par rapport à la religion. Et vous, autant que Français ou Européenne, vous pouvez toujours regarder ça dans les médias. Donc c'est quelque chose de côté complètement contraire à l'un à l'autre.
C'est-à-dire que la religion dans votre pays entraîne de la violence parfois.
Ce sont des gens qui comprennent pas la signification de la religion vraiment. À la base, et parfois, il y a un genre de sensibilité par rapport à ce qu'elles comprennent. Donc, parfois, ils sont... Donc, chaque fois quand quelqu'un qui dit quelque chose et qu'il pose des questions par rapport à ça, il y a des gens qui deviennent un peu plus violentes par rapport à ça.
Alors, je vous rassure tout de suite, Anurag, ça se passe dans toutes les religions. Et pourtant, donc, après une période de détachement, vous retrouvez l'hindouisme d'abord par la philosophie. Alors, avant de voir la philosophie, on va voir, si vous le permettez, la religion. Qu'est-ce que c'est que cette religion hindouiste? Très rapidement, parce que sinon, on pourrait en parler pendant des jours, mais rapidement.
Donc, d'après ce que... j'ai appris, en fait, surtout dans les dernières 5-10 années, c'est que la religion hindouisme parle de dharma. Dharma, on peut dire, c'est une philosophie d'une façon de vivre qui contient de quelques règles et qui est basée sur les règles de la nature. Donc, si on prend un exemple rapide, si on mange la viande, on manifeste la violence, on met la violence dans notre corps. Donc, ce n'est pas une bonne façon de vivre. Donc, le dharma et la religion hindoue représentent de quelques règles qu'il faut suivre pour avoir une vie tranquille dans l'objectif de trouver un paix intérieure.
Oui, la paix intérieure. Mais donc la religion, elle est basée, j'ai parlé au début, donc de plusieurs dieux.
Oui.
Donc est-ce que vous pouvez rapidement nous développer au moins les divinités principales et quels sont leurs rôles dans votre vie?
D'accord. Donc en Inde, si vous posez cette question aux gens, vous trouverez plusieurs réponses. Mais d'après moi, je pense qu'on a... je ne sais pas, Oui, plus de 8 millions de dieux en
8
Inde.
millions de dieux en Inde.
8000,
Des milliers.
oui, des milliers, pardon,
Oui.
des milliers de dieux. Mais pour moi, ce sont des dieux. Puis par si on prend, si on parle de Shiva, Ganesha, qui sont trop connus dans le monde, ce sont des représentations de nos émotions qui existent à l'intérieur de chez humain. Donc c'est ce que je pense. Et parce que par exemple, si on parle de Ganesh, qui est une symbole de intelligence et la sagesse, donc chaque fois quand je me soumis devant ce dieu Ganesha, c'est-à-dire je manifeste la sagesse et l'intelligence chez moi. Donc c'est ça la représentation. C'est ça d'après moi qui représente tous les dieux en Inde.
Alors donc, il y a Ganesh, le dieu de l'intelligence. Et puis, vous m'avez parlé de Shiva,
Oui.
de Krishna aussi.
Oui.
Alors,
Donc.
qu'est-ce qu'il représente? Parce que Shiva, on connaît, quand on regarde des films, c'est toujours le destructeur, le
Oui.
méchant. Alors, est-ce
Oui.
qu'on peut adorer un dieu méchant?
Shiva. Oui, c'est compliqué à expliquer. En fait, je n'ai. Oui, je ne.
Bon, je vais peut-être te piéger un peu ma question.
Oui.
Dites-nous ce que vous pensez de Shiva et ne vous occupez pas de ce que
Par
j'ai
exemple,
dit.
oui, voilà. Donc, Shiva, oui, bien sûr, c'est ça représente la destruction aussi, mais ça représente, c'est que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a, ça va se terminer. Ça, il y
Ça
aura
va
enfin,
finir,
ça va finir.
oui.
Donc, c'est ça. Donc, Shiva, c'est la vraie représentation de la vie. Tout ce qui est là, ça va se terminer. Donc, parce que c'est facile de se concentrer sur la vie, mais personne ne parle de la mort. Donc Shiva, c'est comme la, c'est quand on parle de la destruction, c'est
Tout a une
tout est, oui,
fin.
tout a une fin, exactement. Et par exemple, si on parle de Krishna, donc Krishna, c'est une représentation de l'équilibre, de
Oui,
l'amour,
d'accord.
la balance,
La
un équilibre,
balance,
la
oui.
balance que Ok, on a besoin de la mort, mais en même temps, on a besoin de la vie. Donc, c'est un équilibre.
Shiva, si je peux me permettre, ça me fait penser un peu au principe de l'entropie en physique, c'est-à-dire que tout va vers la fin, tout
Oui.
va vers le désordre, tout va, c'est le second principe de thermodynamique. Donc
Oui.
Shiva, finalement, c'est la représentation de ce principe physique, si je comprends bien, d'une certaine façon.
Oui, et en même temps. Mais chaque dieu a ses qualités. Mais évidemment, la destruction est une qualité, une représentation qu'on voit chez Shiva, mais en même temps, la sérénité. Mais Shiva est un symbole qui représente quelqu'un qui habite dans les Himalayas, au milieu de nulle
Dans
part, dans les Himalayas,
l'Himalaya?
dans l'Himalaya, dans
Oui?
les montagnes,
Ouais?
au milieu de nulle part, qui
Ouais?
mange presque rien,
Ouais?
qui est capable de avaler
Ouais?
les poisons parce que il est très calme, il a une sérénité et tranquillité énorme qu'ils peuvent manger n'importe quelle chose parce que il est
Un moine?
un moine
Ouais.
le plus fort de le monde.
Et alors, Krishna maintenant, parce que vous avez dit donc c'est l'équilibre,
Oui.
l'amour.
Oui.
Donc vous avez, alors si je comprends bien, on va résumer et puis vous allez me dire si j'ai tort ou si j'ai à peu près compris. Donc vous avez Krishna, l'amour, l'équilibre, d'un côté. Vous avez Shiva donc qui est la vie et donc la mort.
Oui.
Qu'on parle de destruction, mais vous nous avez montré que c'était au-delà de ça, que c'était moins, comment dirais-je, moins négatif que ça.
Oui.
Et puis vous avez Ganesh, donc c'est l'intelligence.
Oui.
C'est en fait les trois principaux.
Oui.
Pour vous, c'est les trois principaux. Pour tout le monde, c'est les trois principaux. Quand on voit des gens, par exemple, qui parlent aux dieux ou qui brûlent, je ne sais pas si on parle aux dieux, on va y
Oui.
venir, mais qui brûlent de l'encens devant,
Oui.
c'est à ces dieux-là ou c'est encore à d'autres, il y a encore d'autres
Bien
dieux?
sûr, il y en a d'autres. Donc, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Par exemple, moi, qui préfèrent Ganesh, par exemple, parce que ma mère disait toujours que moi, quand je suis né, c'était le jour de Ganesha. Chaque année, il y a un jour spécial pour chaque dieu. Et il y a des gens, par exemple, la femme de mon frère, il adore Shiva. Il y a beaucoup de gens qui adorent Shiva. Donc, il y a des gens qui préfèrent Krishna. Donc, ça dépend de nous qu'on préfère. Et d'après moi, c'est que la qualité qu'on aime chez Dieu, qu'on adore. Parce qu'à la fin, cette qualité, on devrait avoir chez nous. Donc, évidemment, il y a plusieurs dieux. Il y a un autre dieu qui est très connu, c'est Hanuman. C'est singe.
Oui.
C'est singe.
Un singe.
Donc, lui, il est connu pour sa fortesse.
Sa force. Ouais.
Et sa capacité d'être, il était moine et il était, je n'arrive pas à trouver un mot, mais qui évitait de se marier, en fait.
D'accord, célibataire.
Célibataire, qui était connu pour sa célibataire parce qu'il a donné sa vie à Ram, qui est un autre dieu. Pour toute sa vie parce que il avait ce purpose,
ce but
dans sa vie.
D'accord.
Donc chaque dieu, donc il y a plusieurs dieux et mais évidemment il y a 12, 15 ou 20 dieux qui sont beaucoup plus connus que d'autres et les gens normalement se soumis.
D'accord. Donc on va pas aller plus loin pour la définition des dieux. Mmh. On va revenir sur la philosophie parce que vous êtes venu à la religion ou revenu à la religion par la philosophie. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie pour vous? Parce que la philosophie, bon, on sait à peu près ce que c'est, on a eu des émissions, on va en avoir d'autres sur la philosophie, sur tel point de philosophie, mais pour vous, la philosophie liée à l'hindouisme, qu'est-ce que c'est?
Donc pour moi, la philosophie hindouisme, c'est dharma, comme je disais, c'est une façon de vivre.
Ouais.
Et si on parle des histoires et vraiment les scriptures, les histoires,
l'écriture
et tout ça, et si on compare avec par exemple la version Bible dans la culture hindoue, c'est Gita, qui parle de Gita. Donc Gita, c'est un livre qui contient plusieurs règles, plusieurs versus.
Plusieurs versions.
Versets. Plusieurs versets que Krishna a expliqué quelque part dans le monde, et qui parle de dharma en fait.
Qui disent comment vivre.
Comment comprendre nos émotions, comment trouver la paix intérieure à la fin, évidemment. Comment comprendre ce qui est juste vraiment et ce qui on pense qui est juste, la différence entre les deux. Donc parce que en être humain, on a toujours ce genre de conflit. Donc dans Gita, Krishna explique le concept de dharma en fait, qui est expliqué par plusieurs versets dans ce livre Gita. Et par exemple Gita ou Dharma parle de, par exemple, si on tue un animal, on manifeste la violence. Si on ne mange pas sain, on ne vit pas, on ne dirige pas notre vie sainement, on fait la violence vers nous. Donc, ce sont des règles. Évidemment, il y a plusieurs.
Est-ce que la philosophie, finalement, d'après ce que je comprends, la philosophie est plus dirigée vers vous-même, en fait. C'est une façon de vivre. Alors que la religion serait plus sociale, est-ce que c'est étroitement mêlé? Parce que j'arrive pas bien à discerner finalement le domaine de la philosophie et le domaine de la religion, sauf à me dire que la philosophie peut-être plus pour vous-même et la méditation là-dedans, est-ce que c'est plus de la philosophie, de la religion? Enfin, est-ce qu'on peut répondre à une question comme ça ou est-ce que tout est mêlé?
C'est difficile à expliquer parce que moi non plus, je n'ai pas très structuré mes pensées, mais si on parle de mon religion, si on parle de mon philosophie, et si j'ajoute dharma, à la fin, pour moi, c'est dharma, ce qui est important, qui à la fin est une philosophie, on peut dire, pour bien utiliser le mot, qui travaille sur soi-même. Parce que d'après la philosophie hindoue, tout est dedans. Ce qu'on cherche, ce n'est pas à l'extérieur, ce qui est à intérieur. Et si on change des choses à l'intérieur, on change notre monde. C'est ça d'après la philosophie hindouisme. Ou même par exemple, même si on parle de la méditation, c'est juste trouver la paix intérieure.
La paix intérieure.
La paix intérieure. Ouais. De ne pas laisser faire ce que notre esprit veut. De structurer, de to tame, to dompter.
Dompter
notre esprit, notre tête.
Philosophie, c'est dompter nos pulsions.
Pulsions, exactement. Oui, merci. Oui, impulsion. Voilà.
D'accord. Alors, justement, ça me fait l'introduction à une autre partie, parce que je me demandais si la philosophie, donc vous parlez de paix intérieure, vous parlez de méditation, bon, ici on est une radio donc protestante, donc chrétienne, et on est très tourné vers les autres, c'est-à-dire que je reçois ici notamment des gens qui font des œuvres, même si dans le protestantisme les œuvres ne mènent pas au paradis, mais sont une manifestation de la grâce de Dieu. Mais disons que une des façons de reconnaître Dieu, c'est le trouver dans l'autre, et donc de s'occuper des pauvres, des plus petits, et même des égaux ou des plus grands.
Oui.
Hein? Alors vous, en tant que hindouiste, comment se manifeste ce souci de l'autre, justement?
Très bonne question. Donc là, évidemment, ça commence avec soi-même, parce que une fois on trouve un peu de paix à l'intérieur, bien évidemment, la prochaine étape, de partager ça avec la société. Donc, d'après la philosophie hindoue, si on ne trouve pas la paix intérieure, ça serait très difficile de s'occuper de notre société. Même si on veut, on va finir par faire du mal aux autres. Donc, ça commence avec soi-même, et évidemment, une fois on trouve un peu de sérénité dedans, la prochaine étape, de partager ça avec la société, de donner, de s'occuper de d'autres. Évidemment, ça se grandit. Mais à la base, ça commence avec nous-mêmes. Parce que c'est presque impossible de s'occuper de l'autre si on a du mal dedans, à l'intérieur.
Ça me fait penser, je ris, mais c'est sérieux ce que vous dites, mais ça me fait penser un peu quand on est dans un avion et que le steward vous fait les démonstrations et vous dit, si jamais il y a les masques à oxygène qui tombent, prenez le masque
Exactement.
À oxygène pour vous, avant voilà. d'essayer de le mettre aux autres.
Exactement.
Et alors, je pensais à ça en me disant, bon, voilà, c'était ce qui me venait.
Si, par exemple, je prends un petit exemple, dans Ayurveda, c'est une philosophie d'alimentation, de s'occuper de notre corps, mais là, on parle de, si on mange la viande, évidemment, on manifeste la violence, mais en même temps, il y a beaucoup d'explications, il y aura plus de pensées d'agitation si on met ce genre d'alimentation dans notre corps. Il y a beaucoup d'explications. Et c'est-à-dire, chaque fois qu'on mange beaucoup plus de gras, beaucoup plus des animaux, en quelque sorte, on manifeste des pensées négatives dans notre vie. Et s'il y aura des pensées négatives, bien évidemment, on va faire plus de mal dans notre société. Donc, comment on vit notre vie, ça reflète notre comportement. Et donc, voilà.
Mais ce n'est peut-être pas l'essentiel du problème, mais vous n'êtes pas totalement végétarien à l'hindouisme.
Bien évidemment que non.
Voilà.
Mais je dis, c'est la philosophie, ça ne veut pas dire que tout le monde le suit.
D'accord. Donc, en principe, il faudrait être végétarien. En théorie.
Oui, idéalement, oui.
Idéalement, oui.
Idéalement, oui.
D'accord. Mais alors, il y a aussi une autre. Finalement, ce que vous m'avez dit sur le fait d'être bien dans sa tête avant d'aller vers les autres, ou du moins qui était un préalable indispensable, c'est un peu la psychologie, c'est un peu la psychanalyse, c'est un peu trouve-toi toi-même, etc. Vous avez eu des Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt pour la psychanalyse, pour les études? Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt des gens qui sont dans l'hindouisme pour ça? Ou alors pas du tout? Est-ce que c'est deux mondes complètement séparés?
Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de recherches sur, par exemple, Ayurveda, même la philosophie de yoga qui est basée sur la culture hindouisme, et qui, eux-mêmes, où ils ont fait des recherches avec des moines qui pratiquaient, par exemple, la méditation pendant des années et tout, et ils ont trouvé plein de trucs. Ils ont trouvé plein de choses qui se passent dans leur tête. Par exemple, il y a beaucoup de pratiques dans la culture quand on parle des règles où il ne faut pas manger pendant plusieurs jours pour trouver quelque chose. Mais c'est difficile à expliquer. C'est par exemple moi quand je faisais du yoga, il y a un an, je n'ai presque pas mangé de viande. Mm. Et d'après mon expérience, c'était plus facile de faire mon pratique de yoga. Le lendemain, quand je ne mangeais pas de viande, parce que ça dérangeait mes pensées, et il y avait plus d'agitation, il y a plus de dans mon corps, il y a moins de flexibilité, il y a moins de tranquillité, ce que je me ressentis dans mon corps. Je ne sais pas si j'ai.
Enfin, personnellement, je comprends. Okay. Je comprends très bien. Alors, je voudrais qu'on termine sur la spiritualité, parce que là, donc, vous nous avez expliqué les dieux. Bon, on a bien compris leur rôle. Vous nous avez parlé de la philosophie, donc d'être bien dans soi-même pour aller vers les autres. Et maintenant, ce que je voudrais voir, c'est votre rapport au Dieu. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure, et j'ai dit qu'on reviendrait là-dessus, des pratiques de mettre de l'encens ou d'autres choses devant les dieux, d'une certaine façon, de la prière. Alors, la spiritualité, c'est-à-dire la prière, le rapport qu'on peut avoir avec ces dieux, comment ça se passe? Est-ce que vous vous adressez au Dieu, à quel Dieu? Et est-ce que vous priez? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous écoute, qu'il vous réponde? Comment ça se passe?
Donc, en général, les gens parlent au Dieu.
Ouais.
Et il y a des gens qui pensent que lui, le Dieu, il leur répond.
Oui.
Je pense. Moi, comme je disais, pour moi, Dieu, ce sont des représentations de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, pour moi, comme c'est Ganesh, comme c'est Jésus, ou comme le Dieu en Islam, c'est tous pareil pour moi. Et je me suis mis devant tout, devant tous les dieux. Et en fait, j'ai oublié la question.
Ben c'était comment on prie.
Donc spiritualité pour moi c'est l'objectif de comprendre et vivre et le voir ce qui est vraiment. Et ne pas se diriger par ce qui se passe dedans. Par exemple, si je pense à quelque chose, ça ne veut pas dire c'est vrai. Donc, spiritualité, pour moi, c'est développer les capacités intérieures de trouver et comprendre ce qui est vraiment autour de moi.
C'est-à-dire que vous pouvez vous remettre en question.
Exactement.
Par l'intermédiaire de ce que un dieu vous dit.
Exactement. Et pas juste ce qu'on dit, ce qui est symbolique. Si par exemple Ganesha, si on parle de Ganesha, ok, Ganesha, on parle de l'intelligence. Donc
oui.
Je comprends à quel point l'intelligence chez moi est importante. Donc Ganesha me pousse, me guide. Mais évidemment, je n'apprends presque rien, mais je ne suis pas Ganesh. Mais c'est un symbole qui m'encourage et qui m'inspire de trouver l'intelligence dans notre vie quotidienne et prioriser cette compétence dans ma vie. Parce que ça va changer ma vie. Et c'est pour ça que je respecte Ganesh. Et c'est comme ça que je respecte Shiva. C'est comme ça que je respecte Krishna et d'autres dieux.
Et alors, donc, la religion, est-ce que vous pensez que la religion bien faite, parce que au début vous avez dit que ça pouvait engendrer de la violence, est-ce que ça peut être un ciment social? Est-ce que ça devrait être un ciment social ou est-ce que c'est plutôt une affaire individuelle?
C'est une question un peu épineuse parce que il y a des gens qui ne sont pas éduqués en Inde, et il y en a beaucoup, plus qu'eux qui sont éduqués. Et donc, ce sont des gens qui sont très sensibles par rapport à Dieu. Donc, par exemple, si je dis que Dieu, Ganesh n'existe pas, c'est juste un symbole, ça va faire du mal. Ça va faire du mal à ce genre de gens. Et quand je dis ça va faire du mal, ça peut poser des problèmes, ça va finir par les violences peut-être, oui. Parfois. Donc on n'a pas cette liberté de poser ce genre de questions parmi la plupart des gens, les communs des mortels. D'un autre part, il y a des gens par exemple comme moi qui posent des questions, qui aiment bien comprendre ce qui est vraiment et ce qui la philosophie ou la religion hindouisme nous donne. Et là, je le respecte et je trouve que c'est vraiment une philosophie totale. C'est une philosophie qui n'appartient pas juste qu'aux les gens en Inde, mm-hmm. qui appartient à être humain. C'est pour tout le monde. Et parce que d'après moi, d'après mon expérience, c'est que quand on trouve la paix intérieure, ça peut via la religion hindoue, par exemple, et on peut trouver la paix dans notre vie extérieure. Donc.
Et est-ce que la religion, l'hindouisme, peut être un obstacle au progrès? Par exemple, est-ce que vous avez, par rapport à la science, bon, aux États-Unis, le créationnisme, hein, oui. On pense que Dieu a créé la terre en 6 jours parce que c'est écrit dans la Bible, oui. Quel que soit et on refuse l'évolution, etc. Est-ce que chez vous c'est pareil? Est-ce que dans l'hindouisme c'est pareil? Est-ce qu'on refuse des théories scientifiques au nom de la religion?
Je ne veux pas dire que ça empêche la science d'avancer,
oui.
Mais je ne dis pas, mais bien évidemment, il y a beaucoup de gens, il y a une bonne population qui n'avance pas bien parce que parce que leur philosophie, leur principe de vie est basé sur la religion. Donc ils comptent beaucoup sur le Dieu, ils comptent beaucoup sur la philosophie. Et en quelque sorte, je suis d'accord avec cette mentalité parce que, en quelque sorte, l'objectif, c'est le bonheur, c'est la tranquillité. Ce n'est pas vraiment toujours avancé. Donc, la philosophie hindouisme, la religion hindouisme, soutient ça, de souligne cette partie, que le but ne pas toujours progresser, c'est en fait trouver la tranquillité parce que en tant qu'humain, on a cette capacité. Donc, techniquement, oui, la réponse simple, oui, ça empêche, mais c'est nécessaire, c'est un aspect qu'on découvre dans la religion hindouisme.
Eh bien, je vous remercie, Anurag. Et puis, ben, je vous dis bon séjour en France et bon retour en Inde. Et je remercie nos auditeurs de leur fidélité et nous nous retrouverons la prochaine fois.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.